Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous. La Garonne et ses abords sont un sujet qui revient souvent dans cette émission et pour cause, puisqu'ils sont au centre de nombreux projets métropolitains. Nous les avons encore évoqués récemment lors de la venue du président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, au cours d'un numéro consacré au Grand Parc Garonne. Il constitue à l'évidence un enjeu environnemental, touristique et urbain, un capital naturel, patrimonial et esthétique essentiel à l'alimentation en eau et à la qualité de vie de la métropole toulousaine, qu'il convient donc d'entretenir et de préserver. On sait que beaucoup de choses sont faites pour mettre en valeur ce capital, mais qu'en est-il de l'entretien et de la propreté des berges de la Garonne? Si vous vous promenez comme moi sur ses rives et que vous jetez un œil en bordure ou sur ses abords immédiats, vous devez constater qu'on y découvre trop souvent des choses qui n'ont rien à y faire. Des questions se posent donc dans ce domaine et nous allons les poser au cours de cette émission que nous avons intitulée « Entretien, propreté, nettoyage des berges de la Garonne, état des lieux ». Et pour traiter ce sujet et répondre aux questions qu'il suscite, nous recevons aujourd'hui Florence Ducroquet et Cécile Clémente, respectivement présidente et secrétaire du collectif Champ d'Action. Bienvenue à toutes les deux et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que tout le monde a compris que votre association et sa raison d'être ont quelque chose à voir avec notre sujet du jour. Il va falloir qu'on précise un petit peu les choses tout de même. Qu'est-ce qui a motivé la création de Champ d'Action et quels sont les buts poursuivis par votre association ?
Alors effectivement, on a créé une association dans le but de préserver, voire de nettoyer les berges de la Garonne, des détritus individuels.
Industriels aussi, je suppose,
industriels
parfois.
Aussi, enfin industriels, plutôt par des entreprises, par des PME par exemple, il y a quand même une réglementation derrière, mais il y a quand même effectivement un laisser-aller individuel qui se retrouve effectivement dans des pollutions le long des berges.
Alors du coup, votre association, c'est vraiment nettoyer les berges de la Garonne ou il y a aussi d'autres objectifs derrière ?
Non, on est vraiment centré sur les berges de la Garonne, alors tout ce qui pourrait s'en découler, parce que plus on avance dans l'action, plus on s'aperçoit que c'est pas que la Garonne, mais que ça va être aussi la Saudrune, par exemple, toutes les petites rivières adjacentes, ça va être des cours d'eau, et ça va commencer par un déchet qu'on va jeter en ville, ou qu'on va jeter de sa voiture, par exemple, qui vont arriver sur des petites rigoles dans les villages.
Et voilà. Je suppose que certains arrivent aussi dans le canal du Midi, puisqu'ils communiquent avec la Garonne.
Hein. Et le canal Midi est en pleine ville, donc déjà en soi, il a aussi une autre source, mais ça, c'est plus difficilement accessible pour nous.
Alors maintenant, une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené, toutes les deux, à vous engager dans cette entreprise? Je suppose que votre sensibilité et votre engagement pour la protection de l'environnement ne datent pas d'aujourd'hui, ni même d'hier.
Alors oui, effectivement, on est avertis, comme beaucoup de monde maintenant. On fait partie de ce phénomène de gens qui sont curieux, qui cherchent aussi l'information. Et on a vu un phénomène que beaucoup de gens connaissent et on s'en aperçoit aussi le long de nos sorties. C'est le phénomène de septième continent. Alors c'est parti de là. On sait que 80% de la pollution des océans viennent des terres, des grandes métropoles, Toulouse évidemment aussi. C'est simplement en se promenant le long de la Garonne, parce que la Garonne est magnifique. Il y a une chance extraordinaire à Toulouse, c'est d'avoir un accès sur la nature sauvage à quelques kilomètres d'une ville, très proche. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Et c'est en se promenant aussi qu'on s'est aperçu que le phénomène touchait aussi Toulouse, effectivement. On a commencé à prendre un sac poubelle, à prendre des gants, à être 2-3. Et le phénomène, on s'est aperçu qu'il s'est accru. Plus en plus de monde était intéressé par le sujet parce qu'on nous dit qu'il faut agir et que là, on a la possibilité de faire quelque chose. Donc, on a commencé comme ça à s'organiser. On a fini avec des sorties pour l'instant à 30 personnes. Donc, il y a tout un phénomène derrière où les gens sont au courant des pollutions.
Merci pour tous ces renseignements et cette présentation de Champ d'Action. Nous allons détailler vos actions justement, vos expériences et développer notre thématique du jour dans quelques minutes. Ce sera après le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Métropolez-vous, l'actu. Nous allons commencer ce flash d'information, la tête dans les étoiles. Depuis lundi, se tient dans la ville rose le 30e congrès mondial des astronautes organisé à la Cité de l'Espace.
Oui, la Cité de l'Espace qui célébrait d'ailleurs dimanche dernier ses 20 ans en présence d'un certain Thomas Pesquet. C'est aussi le premier site européen en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public. Le congrès, lui, réunit plus de 100 astronautes du monde entier pour une semaine d'échanges professionnels, de rencontres et de partage avec les scolaires aussi. ici les étudiants, mais aussi la filière spatiale et le grand public. Lors de ce congrès, les astronautes vont partager leur contribution au progrès de l'exploration spatiale, prôner la collaboration internationale et promouvoir les bénéfices de cette exploration auprès de tous les publics. Toutes les sessions peuvent être suivies en ligne sur le site internet www.cité-espace.com.
Toujours dans le domaine de la culture scientifique et technique, Toulouse Métropole a fait son bilan des 3 ans de la French Tech Toulouse.
French Tech Toulouse, c'est un collectif fédéré d'entrepreneurs, d'acteurs publics et de structures d'accompagnement qui soutiennent le développement des startups. Le bilan est plutôt positif. Toulouse est devenue la première métropole après Paris pour la création d'emplois dans les startups et compte 12 lauréats du Pass French Tech ainsi que 6 entreprises dans le Fast 500 de Deloitte en 2016. C'est le classement mondial des entreprises technologiques les plus dynamiques.
La métropole qui abrite aussi un nouveau lauréat du Pass French Tech.
Le Pass French Tech est un programme national d'accompagnement lancé en 2014 à destination des entreprises en hypercroissance pépite de la French Tech. Nayo Technology est une start-up innovante dans sa conception de l'agriculture grâce aux innovations robotiques. Ses produits s'appellent Oz, Dino, Bob ou encore Ted. Ce sont des robots permettant de faciliter le travail des agriculteurs et maraîchers sur leur exploitation grâce à un désherbage mécanique autonome. La start-up de robotique agricole Nayo Technologie est basée à Escalquins et a obtenu son pass le 3 octobre dernier. L'entreprise organise d'ailleurs les 29 et 30 novembre prochains le Forum international de la robotique agricole au Quai des Savoirs.
Avec le temps doux qui persiste encore ce début de semaine, les bords de Garonne sont propices aux balades. Ayez le geste citoyen et utilisez les poubelles pour vos déchets.
La propreté de l'espace public est une des missions de Toulouse Métropole et de ses 37 communes. Elle est assurée par 779 agents dédiés au nettoiement répartis sur les 5 pôles territoriaux de Toulouse Métropole. Le plan propreté s'appuie sur plusieurs axes comme cibler les moyens et les actions en fonction du rythme de vie de chaque rue. Une typologie des voies a été définie ainsi que le niveau de qualité et les méthodes d'intervention qui vont avec.
Il s'agit aussi de coordonner et mettre tous les agents métropolitains intervenant dans le domaine public au service de la propreté et du nettoiement.
Exact. Autre objectif aussi, il faut impliquer dans ces actions le citoyen et coproduire avec les usagers, les riverains, les commerçants, une politique publique pour que chacun se sente responsable et impliqué dans la qualité de vie dans la cité. Si la métropole travaille pour optimiser ses missions d'entretien et de propreté de l'espace public, elle ne peut y parvenir sans la mobilisation des usagers. D'ailleurs, en mai, des journées de nettoyage des berges, des canaux et de la Garonne sont organisées avec des dizaines de bénévoles et des associations de quartier, dans un souci environnemental bien sûr, mais aussi pour le bien-être de nos yeux.
Alors, après ce flash d'information, Florence Ducroquet et Cécile Clément, je pense que vous voudrez peut-être réagir à la dernière information, celle qui concerne donc le plan propreté de Toulouse Métropole. Est-ce que vous en avez connaissance de ce plan propreté, de son existence et puis bien sûr aussi de ses axes principaux ?
Alors, les axes principaux, il y a une communication qui a été faite sur le site internet de la ville de Toulouse avec des actions qui fonctionneraient bien. Depuis mai, il y a l'application Allo Toulouse. Chacun peut...
C'est-à-dire si on constate quelque part un objet qui n'a rien à faire là où il est, Allo Toulouse, et les services de propreté interviennent pour enlever cet objet.
Voilà, en tout cas, on peut le déclarer. Il y a la possibilité de connaître une cartographie des poubelles, de verres, vraiment sur les différentes, au sein de la cité, au sein de Toulouse, hein, de la ville de Toulouse. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans ce sens, en tout cas, pour Toulouse, j'entends.
Et puis ces journées de nettoyage en mai, là, des berges, des canaux, de la Garonne, est-ce que vous y avez déjà participé, ou à titre personnel, ou au titre de votre association ?
On évite d'être trop en Toulouse centre-ville parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'actions, on sait que la ville est là. Après, nous, on se tient aussi au courant de ce qui se fait. Il y a des fois des actions qui se chevauchent, hein, qui se regroupent un peu. Voilà.
Bon, alors on va développer tout ça, hein, en poursuivant notre discussion. En tout cas, cette première information pose les bases de notre échange autour du thème de cette émission qui est, je le rappelle, entretien, propreté, nettoyage des berges de Garonne, état des lieux.
Métropole et vous.
Métropole et vous. Le focus de la semaine.
Métropolez-vous, la suite avec nos invités Florence Ducroquet et Cécile Clément, présidente et secrétaire du collectif Champ d'Action, pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez de nettoyage des berges de la Garonne, quelle partie du fleuve cela concerne-t-il ? Est-ce seulement le parcours dans la ville de Toulouse ? Apparemment non, après ce que vous venez de nous dire. Et est-ce que vous agissez également en amont et en aval de celle-ci ?
En fait, on préfère justement aller en dehors de Toulouse, hein. Et le bilan de la première année, c'est qu'on est monté jusqu'à la limite du département avec le Tarn-et-Garonne et qu'on est descendu jusque Roc. Et les objectifs de cette année, c'est d'avoir la possibilité justement d'aller un peu plus loin, de faire 20 km de plus au niveau du Tarn-et-Garonne et de descendre en dessous de Roc. De continuer à intervenir dans les endroits où on est déjà allé, notamment des zones qui ne sont accessibles qu'à la fin de l'été ou en automne. Je parle là des îlots ou de certains endroits de la rive gauche. Mais on a également pour objectif en fait, de nettoyer certaines rivières, parce qu'en fait, ce qui nous a le plus choqué, ce qui commence finalement à plus nous choquer, ce n'est pas l'état de la Garonne, mais c'est l'état des rivières qui se jettent dans la Garonne.
Les affluents de la Garonne.
Parce que dans ce cas-là, le niveau est parfois très bas et on voit à travers, on voit des milliers de pneus, on est tombé sur un endroit où il y avait genre 2000 bouteilles qui s'accumulaient et on a l'impression justement que avant d'aller plus loin, en remontant plus dans le nord ou dans le sud de la Garonne, la priorité ce serait justement de nettoyer les rivières et différents cours d'eau.
Aujourd'hui, vous avez peigné combien de kilomètres? Vous le savez à peu près, je crois que c'est une trentaine, vous 30, le disiez oui. Tout à l'heure. Trentaine de, vraiment, du parcours de la Garonne, en gros de Roc sur Garonne, si j'ai bien compris, jusqu'à Gagnac.
Jusqu'à Onde.
Ah, jusqu'à Onde, donc presque jusqu'à Grenade-sur-Garonne. Effectivement, presque à la limite du Tarn-et-Garonne. Vous comptez aujourd'hui sur combien de membres et de bénévoles dans votre association pour ces interventions?
On est actuellement 63 bénévoles. Et sur chacune des interventions, on est en dehors de Toulouse, on est autour de 10-15. Et quand on intervient sur Toulouse, on est entre 15-30.
Alors, vous l'avez un petit peu évoqué là, en parlant de cet endroit où s'accumulaient des pneus et des bouteilles. Alors, je vais revenir à la Garonne tout de même. Aussi bien ce qu'il y a dans la Garonne qu'il y a sur les rives de la Garonne, qu'est-ce qui est le plus récurrent dans ce que vous ramassez et aussi qu'est-ce qui est le plus insolite?
Alors, ce qu'il y aura de plus récurrent, c'est les sachets d'alimentation, les emballages,
les
plastiques, les bouteilles. On va trouver beaucoup de canettes en alu, des bouteilles de verre aussi, pour pas dire bière, parce que c'est finalement ça qu'on trouve le plus souvent aussi. Les pneus, oui. Alors, on trouve les déchets qui sont soumis aussi à une réglementation qui ont un coût. Pour éviter les coûts pour les entreprises, par exemple, il est plus simple, vraiment plus simple, de les mettre sur les berges de la Garonne. Il y a des berges, des endroits qu'on a identifiés qui sont très simples, qui sont vraiment au bord de la route. Il y a juste à mettre son frein à main et à jeter donc des travaux des entreprises dans le bâtiment, des peintres, parce qu'on a trouvé des pots de peinture entiers, ce genre de choses. On a trouvé un cuisiniste qui ne s'est pas encombré non plus, aller jusqu'à la déchetterie. Et c'est ça justement,
oui.
C'est d'éviter soit les heures, les jours ou le tarif aussi.
Après, donc, on est tombé sur un lave-linge. À la vaisselle qui n'est pas sur les bords de la Garonne, mais qui est complètement au milieu de la Garonne, sur des rochers.
Au milieu de la Garonne?
Oui, et alors là, je ne sais pas
comment
il est
arrivé là.
Les eaux ont monté.
Un hélicoptère.
Oui, enfin, c'est... Ouais.
Voilà, dans le genre insolite, effectivement. Alors moi, on m'a dit qu'on trouvait dans la Garonne des coffres-forts.
C'est possible, oui.
J'ai vu des vidéos où on voyait des coffres-forts.
Ouais.
Pas un seul, plusieurs. Qui peut aller jeter ça dans la Garonne? Parce que là, évidemment, ce n'est pas le courant qui les apporte.
Il serait intéressant de l'ouvrir. Mais
oui, éventuellement.
C'est dommage.
Éventuellement. Alors, je suppose que vous trouvez aussi des vélos, parfois.
Oui, bien sûr.
Des mobilettes.
Oui.
Des ordinateurs, des téléviseurs.
Oui, oui, oui. Alors, beaucoup de D3E, c'est les déchets d'équipements électriques, électroniques aussi, pour ne pas s'encombrer, pour pas... c'est des vaisselles cassées, on s'est demandé. Des fois, on essaie d'imaginer un peu comment certains déchets...
Des faire passer.
Des matelas aussi, je crois, au bord de la Garonne.
Oui, bien sûr. Bah,
c'est
un lieu idéal pour camper, mais pas n'importe comment non plus.
Et laisser évidemment tout ce qu'on a porté, ouais, pour camper. Bon, lorsque vous faites des campagnes de ramassage, je crois que maintenant vous en faites assez régulièrement, est-ce que vous avez une idée des quantités que vous ramassez, alors que ce soit, je ne sais pas, en kilos, en litres, je ne sais pas comment vous évaluez ce que vous ramassez?
C'est difficile à évaluer parce que quand vous tombez sur un vélo, le poids est difficile à évaluer, de toute façon. Après, on fonctionne plutôt en litres avec les photos qu'on prend à chaque fois de ce qu'on ramasse. On fonctionne avec des sacs de 50 litres.
Non,
en litres. Ouais. On a fait une vingtaine de sorties jusqu'à là. On devait être jusqu'à à peu près 7000 litres. C'est énorme.
C'est ce qui me semble aussi.
Ouais.
7000 litres sur combien de kilomètres? Ça correspond
à 30
kilomètres dont vous,
ouais,
avez parlé.
C'est ça.
Voilà. Alors, comment vous procédez lorsque vous faites vos campagnes de ramasse, de collecte là? Vous repérez d'abord les lieux pour évaluer la quantité qu'il va y avoir à traiter. Et donc, à partir de là, vous dites qu'il va falloir qu'on soit, je sais pas, 10, 20, 30...
Oui, après c'est très variable en fonction des endroits dans lesquels on va. Il y a plusieurs choses qui doivent être prises en compte. Est-ce qu'il y a des déchets extrêmement lourds? Là, on va essayer vraiment d'avoir certains bénévoles qui, justement, ont une affection particulière pour les déchets très lourds. Pour eux, c'est un duel d'aller chercher une mobilette dans la Garonne, ou justement, ils voulaient absolument aller chercher ce lave-linge au milieu de la Garonne, parce que pour eux, voilà, ça a quelque chose de plus. Après, on prend aussi en compte le fait de savoir si le milieu est accessible aux enfants de 12 ans ou quelqu'un qui ne serait pas bénévole et qui viendrait pour la première fois. Et il y a certains lieux, en fait, que l'on réserve à certains bénévoles où on est beaucoup plus vigilant. On sait d'avance qu'on risque d'y trouver des seringues.
Oui, on n'a pas parlé de ça, parce qu'il y a des seringues aussi, vous trouvez
des
seringues.
Oui, il y a des seringues aussi, oui, c'est vrai.
Alors justement, j'en venais à l'équipement qu'il faut, si on veut participer à vos campagnes de collecte. Je suppose qu'il ne faut pas arriver les mains dans les poches, en chaussures de ville, comme ça. Il faut des bottes, sans doute, des gants. Peut-être qu'il faut rentrer dans l'eau un peu plus que des bottes, quelque chose qui est, voilà, des cuissardes. Ou,
Alors, ce qu'il faut venir, c'est avec des vaccins. Déjà,
en règle. Il faut être en règle.
Et ouais, ouais, mais c'est important.
Il faut être à jour.
C'est important.
Tétanos et tout ça.
Tétanos, c'est même hépatite B. Ouais. Hépatite B aussi, en fonction justement de ce qu'on dit, des seringues qu'on peut trouver.
Ouais.
On a demandé à un médecin, effectivement, de nous dire à peu près les vaccins qu'il faut. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas avoir de contact avec les déchets. Donc, des gants épais. Caoutchouc épais, type jardinage de ligneux, enfin de rosier, un peu dans cet esprit, de cet esprit-là. Des manches longues, des pantalons, évidemment. Des chaussures qui vont maintenir la cheville, parce que les bords de la Garonne, c'est jamais vraiment plat. Ça fragilise aussi les chevilles avec le temps, c'est bête, mais voilà. Et venir avec des sacs plastiques pour le moment, et pour revaloriser un peu aussi les déchets après, donc c'est pouvoir aussi les collecter. Donc venir avec des sacs plastiques et vraiment bien équipé. Si on est dans le Toulouse, comment dire, la Garonne un peu sauvage, de mettre des lunettes de protection. Parce que le premier accident, c'est la branche dans l'œil. C'est le truc dont on ne pense pas, mais
pas
c'est...
pas pensé à ça, effectivement.
Effectivement, voilà, aux lunettes de soleil.
Je reviens au parcours, alors regardant que vous avez déjà peigné, si je puis dire. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des zones où il y a vraiment plus de déchets que d'autres? Et est-ce que ces zones ont une particularité? Est-ce que c'est plus arboré? Est-ce qu'on peut plus facilement se cacher lorsqu'on vient jeter des choses?
En fait, il y a vraiment des lieux particuliers sous les ponts. C'est vraiment le lieu le plus...
Parce que l'accès est plus simple.
Mais on y a juste un geste à faire. Hein.
Et là, on trouve soit c'est des lieux de squat, soit c'est des lieux où les gens, comme dans certaines villes, où les industriels viennent, ou des entreprises viennent jeter des déchets industriels en grosse quantité. Soit c'est des lieux de squat particuliers où on va trouver plus de seringues. Soit c'est des zones aménagées le long de la Garonne où plus la Garonne va être sauvage, plus elle va être fermée. Plus on se rapproche par exemple de l'Ariège. Vous allez sur l'Ariège, il n'y a pas énormément de déchets. Il y a quelques endroits qu'on a repérés. La Garonne, à chaque fois qu'on a aménagé des plages, on a aménagé des lieux pour que les loisirs, etc. On peut automatiquement savoir qu'il y aura énormément de déchets
derrière. Là, vous
allez
trouver des choses. Avant d'y aller, vous savez que vous trouverez des choses.
Oui, certains déchets, par exemple, si on se balade sur Toulouse, on a fait deux sorties sur Toulouse, on sait que ce sera les mégots et les canettes.
Les canettes. Alors, qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous collectez? Est-ce que vous le triez, une fois que tout le monde revient, pour voir ce que vous avez collecté prioritairement, et après, vous l'apportez, je ne sais pas, est-ce que c'est une déchetterie? Comment c'est détruit?
Alors là, c'est tout un pan qui commence à un peu se structurer au sein de l'association, c'est que faire avec? Parce qu'on a aussi, comme je vous disais, au sein de l'association, des gens qui sont aussi informés, qui nous demandent aussi ce qu'on peut faire avec. Et on a, avec le temps, commencé à créer des partenariats. On travaille avec des associations qui vont, eux, garder les déchets.
Recycler éventuellement.
Recycler, alors voilà. Recycler, collecter et revendre. Il y a toute une filière. Après, ça dépend de quel déchet on parle.
Ouais, parce que c'est du plastique, du carton.
Voilà, alors.
C'est pas traité de la même façon.
Non, c'est pas traité de la même façon. Donc le verre, nous, tout simplement, basiquement, on le collecte et on le met dans simplement les conteneurs en verre qu'on peut trouver partout. Parce que ça, c'est pas compliqué non plus. Les bouteilles en plastique, c'est pareil. Le métal aussi, ça, c'est pareil. Il y a les fameuses poubelles vertes de Toulouse, en tout cas, qui sont un peu moins communes, mais qu'on va pouvoir trouver des conteneurs comme ça. Après, le métal, Thérèse des ferrailleurs. Donc là, il y a une démarche de notre part de savoir comment pouvoir les transporter et comment pouvoir les stocker. Et après, pouvoir les proposer aux ferrailleurs, parce que c'est de la matière. Au-delà du déchet, c'est une matière qui peut être réutilisable. Donc nous, on est aussi dans cette démarche-là de dire c'est bien de ramasser, c'est ce qu'on a fait pendant 6 mois. Maintenant, on se dit qu'il y a une valeur aux choses. Et on travaille ici avec une association qui s'appelle...
Les Amis de Fambine.
Les Amis de Fambine, voilà, qui, eux, récupèrent les stylos, les bouchons en liège, les capsules...
Les pots de compote,
qui sont pour l'instant collectés. C'est tout un monde. Les mégots, on commence aussi un peu avec les mégots, mais il y a des conditions de stockage qui sont encore à mettre en place. Mais on peut, avec les D3E, c'est pareil. Les D3E, c'est soumis, il faut les mettre en déchetterie. C'est pareil, est-ce que c'est des déchets d'équipement électronique? Donc, pour chaque chose, pratiquement, on peut trouver un circuit Mais par contre, comme on est tout petit, on essaye de s'insérer dans des circuits existants.
Ça commence à se mettre en place.
Voilà, pour nous, ça commence. Pas du jour au lendemain. Et c'est long. Voilà.
Alors, ça m'amène à ma question suivante. Est-ce que vous faites un rapport, par exemple, de ce que vous trouvez à l'agence de l'eau à Dour-Garonne, ou au service propreté de Toulouse Métropole, ou au service propreté des communes où vous avez procédé au ramassage? En gros, est-ce que vous travaillez en relation avec ces institutions, ces établissements?
Mais à partir du moment, en fait, on est une toute jeune association.
Est-ce que c'est 2016, je crois, la création?
Oui. Les rapports qu'on peut avoir avec Toulouse Métropole ou avec la Dour, ce sont des rapports qui sont longs à mettre en place, qui dépendent en partie de leur propre agenda. Et donc, on a un premier rendez-vous, justement, avec Toulouse Métropole en décembre.
Avec le vice-président, peut-être, de Toulouse Métropole pour la propreté, Romuald Pagnucco, qui est d'ailleurs été venu à cette émission. Il serait bien, évidemment, ça serait peut-être de faire des points réguliers avec eux, mettre en place des réunions, des concertations avec votre association, mais peut-être avec d'autres aussi.
Oui, mais on travaille avec d'autres associations aussi. Hein. Enfin, ouais. On est en contact aussi, parce que c'est tout un monde. On s'aperçoit que plus on avance, et plus on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls. Et que même au sein de Toulouse, enfin de la région en tout cas, il y a quand même des gens, il y a...
Le but, c'est de créer, de notre côté, en fait, c'est de créer une synergie avec des associations locales et des associations qui ont chacune leur spécificité. Par exemple, on pense à Opération Murée sans déchets, une opération sur Murée qui nous est déjà venue nous aider. On pense à travailler avec elle sur le sud de Toulouse. On pense à l'association Let's Do It qui prépare la Grande Journée mondiale 2018 sur une opération. Ça aura lieu le même jour dans le monde entier, une journée de ramassage. Et on essaie de mettre en place des journées de sensibilisation avec cette association. Donc voilà, avec des associations locales principalement.
L'association existe depuis un an et demi à peu près. Quel bilan vous dressez de la situation actuelle, de la propreté des berges de la Garonne dans la métropole toulousaine, et même au-delà d'ailleurs? Est-ce que c'est pire que ce que vous imaginiez lorsque vous avez commencé vos actions? L'évolution, est-ce que ça empire? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais est-ce que c'est pire que ce que vous imaginiez? C'est-à-dire que vous trouvez que c'est désastreux?
Je pense pas que c'est désastreux. On n'est pas en Inde, on n'a pas des rivières de déchets qui se déversent régulièrement. C'est une pollution qui est acceptée, qui est acceptable, qui est anodine pour la plupart des gens que l'on rencontre, alors que les gens se posent la question en termes de propreté. C'est quelque chose qui dérange le paysage local.
Visuellement, vous voulez dire, visuellement.
C'est un problème pour les touristes, etc. Nous, ce qui nous choque plus, c'est l'impact que peuvent avoir les déchets, même des déchets minuscules comme le mégot, sur l'environnement. C'est un problème qui est pour nous environnemental, alors que pour beaucoup, ça reste un problème de propreté. Et ce qu'on aimerait faire prendre conscience aux gens, c'est que c'est avant tout un problème d'environnement. Qu'un mégot jeté dans la Garonne, ça pollue 500 litres d'eau. Que tout le long de son parcours, ça va déverser 2500 substances chimiques tout le long de la Garonne, un seul mégot. Qu'un seul mégot, une fois qu'on va traiter l'eau pour essayer de la purifier, ces substances ne vont pas partir. Que, par exemple, le Nouvel Obs vient de faire une nouvelle étude où il montre en fait que l'eau du robinet, il a commandé différentes études pour étudier la qualité de l'eau des robinets en France. Dans 80% des échantillons, l'eau contient des nanoparticules de plastique qui peuvent pénétrer à travers nos tissus. Enfin, le plastique est déversé dans la Garonne. Un mégot, ça atteint en premier lieu la faune et la flore locale. C'est responsable de la plupart des disparitions des poissons et des oiseaux.
Oui, je peux confirmer que lorsqu'on prend un poisson dans la Garonne et qu'on le vide et qu'on lui ouvre l'estomac, souvent on trouve des mégots dedans, par exemple.
Ça se retrouve dans la chaîne alimentaire.
Voilà, il y a les substances, mais il y a le mégot lui-même, après, qui est vraiment consommé, si je puis dire, par les poissons, mais d'autres animaux, des oiseaux, enfin voilà.
Le mégot, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est rien de plus ni moins que du plastique, en fait, aussi, au final.
Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, là, pour améliorer la situation? Alors, il y a nos habitudes, ne pas jeter n'importe quoi, bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas lié aussi à nos habitudes de consommation, voire à notre modèle de société?
Après, c'est vrai que c'est des questions qui sont en train d'émerger actuellement. Même le monde scientifique est en train d'essayer de comprendre. Il est en train d'essayer de comprendre ce que devient un plastique dans l'océan. Après, c'est pour nous, ce qu'on pourrait mettre en avant, c'est des initiatives qui, par exemple, les magasins Leclerc en Bretagne récupèrent les bouteilles en plastique, récupèrent les shampoings, récupèrent énormément de déchets plastiques et reversent 2 centimes à chaque fois que l'on vient déposer. Et c'est un succès phénoménal. On est à 98 000 millions de bouteilles récupérées. À partir du moment où le particulier a un intérêt, on a un espèce d'engouement qui se fait. Je pense que 50% des personnes le font pour récupérer cette petite cagnotte à la fin, mais ça sensibilise aussi 50% de la population au fait que c'est recyclable, que ça a un intérêt et que ça a un impact.
On va terminer évidemment pour reparler de votre association. Quand ont lieu les prochaines sorties que vous organisez pour de la collecte sur les rives de la Garonne?
La prochaine a lieu dimanche sur Beauzelle. Et les prochaines, ce seront sur Seyss. Sur Seyss, après on va retourner sur Fenouillé et sur Gagnac-sur-Garonne pour faire les différents îlots.
Et pour les gens qui nous écoutent, comment on s'inscrit, comment on peut participer? Il faut contacter votre association à votre adresse mail ou il y a un site peut-être où on peut s'inscrire?
Sur Facebook, il y a tout l'agenda qui est disponible sur Facebook. Sinon, les différentes dates sont également disponibles sur le site J'agis pour la nature de la Fondation anciennement Nicolas Hulot. Sinon, il y a la possibilité d'aller sur notre site. Je pense que vous mettrez l'adresse.
Absolument. Eh bien, écoutez, je vais la rappeler dans quelques instants. Grand merci à vous deux, Florence Ducroquet et Cécile Clément, d'être venues nous parler des actions que vous menez avec le collectif Champ d'Action et d'avoir fait cet état des lieux de la propreté des berges de la Garonne. Le tableau n'est pas très réjouissant. Il y a beaucoup à faire pour améliorer la situation. Et il ne faut pas compter que sur les pouvoirs publics pour ça. Nous autres citoyens sommes les premiers concernés, aussi bien pour traiter les causes que les conséquences des comportements de certains d'entre nous. C'est un enjeu fondamental pour notre qualité de vie, bien sûr, mais aussi pour l'attractivité de la métropole où nous vivons. Pour ça, vous pouvez bien sûr vous engager auprès de Champ d'Action, dont je rappelle l'adresse mail champdaction@gmail.com, action au pluriel. Le collectif a également un site internet champdaction.vixsite.com/CAD31 et également une page Facebook où vous pouvez trouver toutes les informations et les dates des prochaines sorties sur les bords de Garonne. Je vous rappelle que vous pouvez aussi consulter le site de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie mission rubrique déchets propreté. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jean-Louis Zac. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.